un avertissement de Mercure. Pour la première fois depuis des semaines, tous les membres sans exception de la commission Rama avaient pu se libérer. Le professeur Salomon avait émergé des profondeurs du Pacifique, où il avait pu étudier les travaux miniers le long de la grande faille mésocéanique. En outre, le docteur Taylor était réapparu en même temps que devenait plausible dans Rama l'existence de choses plus pittoresques que de simples objets inanimés. Cela ne surprit personne. Le président s'attendait à retrouver un docteur Carlyle Pereira encore plus dogmatique et affirmatif que d'habitude, puisque s'était réalisé sa prédiction de l'ouragan raméen. Au grand étonnement de son excellence, Pereira fut remarquablement discret et il accepta les félicitations de ses collègues d'un air aussi embarrassé que s'il l'était, pour une fois, réellement. En fait, l'exobiologiste était profondément humilié. Le spectaculaire effondrement de la mer cylindrique, bien que plus évident encore que la naissance de l'ouragan, lui avait complètement échappé. S'être rappelé que l'air chaud monte, mais avoir oublié que la glace se contracte en se réchauffant, n'était pas un exploit dont il put se sentir fier. Mais, ce moment pénible une fois surmonté, il retrouverait l'olympienne assurance qui caractérisait son état normal. Lorsque le président lui offrit de prendre la parole en lui demandant quels autres changements climatiques il prévoyait encore, il prit bien soin de ne point trop s'avancer.
« Dites-vous bien, commença-t-il, que la météorologie d'un monde aussi étrange que Rama peut nous réserver d'autres surprises. Mais, si mes calculs sont exacts, il n'y aura pas d'autres tempêtes et la stabilité ne tardera pas à s'instaurer. Jusqu'au passage au périhélie et au-delà, la température va s'élever lentement, mais cela ne nous concernera plus dans la mesure où l'Endeavour aura décroché depuis longtemps. »
« Il est impératif qu'ils y retournent, » dit l'ambassadeur de Mercure. « Nous devons amasser un maximum de connaissances sur Rama. La situation est maintenant tout autre. »«
Nous voyons, je pense, où vous voulez en venir, mais pourriez-vous préciser ?»«
Certes. Nous avons supposé jusqu'à présent que Rama est inanimé, ou, à tout le moins, désemparé. Mais nous ne pouvons plus le considérer comme une épave. » Même s'il ne transporte aucune forme de vie, il peut être commandé par des mécanismes autorégulés et programmés pour effectuer une quelconque mission, peut-être extrêmement néfaste pour nous. Si détestable que cela soit, nous ne pouvons éluder le problème de l'autodéfense. »
Il y eut un bruit confus de protestation, et le président dut lever la main pour rétablir le calme.
« Laissez son excellence terminer !» plaida-t-il. Même si elle nous déplaît, cette idée doit être étudiée sérieusement.
« Sauf le respect que je dois à l'ambassadeur, »
dit le docteur Taylor de sa voix la plus irrespectueuse,
« je pense que nous pouvons nous épargner la naïveté de croire à une intervention malveillante. Des créatures aussi évoluées que les Raméens doivent avoir une éthique en conséquence. Sinon, ils se seraient détruits eux-mêmes, comme nous avons été prêts de le faire au XXe siècle. » Je l'ai parfaitement établi dans mon livre « Éthos et Cosmos ». J'espère que vous en avez reçu votre exemplaire.
Oui, merci. Bien que je craigne que l'urgence d'autres problèmes ne m'ait pas permis d'aller au-delà de l'introduction. Toutefois, la thèse que vous y développez m'est familière. Nous pouvons n'avoir aucune intention malveillante à l'égard d'une fourmilière. Mais s'il se trouve là où nous voulons construire une maison...
Vous avez peur, vous aussi, de la boîte de Pandore ? C'est de la xénophobie interstellaire, rien d'autre.
Messieurs, je vous en prie, cela ne nous mènera nulle part. Monsieur l'ambassadeur, vous avez toujours la parole.
Le regard du président traversa 380 000 kilomètres d'espace pour fusiller Conrad Taylor, qui se contint à regret, comme un volcan attendant son heure.
Merci, dit l'ambassadeur de Mercure. Si peu probable que soit le danger, nous ne pouvons pas prendre de risques dès lors que l'avenir de l'espèce humaine est concerné. Et je dirais même que nous autres Hermiens sommes particulièrement concernés. Nous avons, plus que quiconque, des raisons de nous alarmer. »
Le docteur Taylor grogna ostensiblement, mais un second regard furieux décoché depuis la Lune le remit à sa place.
« Pourquoi Mercure plutôt qu'une autre planète ?
Demanda le président.
Observez la dynamique de la situation. Rama est déjà à l'intérieur de notre orbite. Nous ne faisons que supposer qu'il va contourner le Soleil et se perdre à nouveau dans l'espace. Mais imaginez qu'il effectue une manœuvre de freinage. Dans ce cas, ce sera lors de son passage au périhélie dans 30 jours environ. Chez nous, les savants disent que si tout le changement de vitesse s'effectue en ce point, Rama se trouvera placé sur une orbite circulaire à 25 millions de kilomètres seulement du Soleil. De là, il dominerait tout le système solaire.
Il y eut un long silence, que personne, pas même Conrad Taylor, n'interrompit. Tous les membres de la commission convenaient in petto que les Hermiens étaient des gens bien difficiles et qu'ils étaient fort pertinemment représentés par leur ambassadeur. De l'avis quasi général, Mercure fournissait une bonne image de l'enfer et la fournirait tant que rien d'autre ne se révélerait pire. Mais les Hermiens étaient fiers de leur bizarre planète, de ses jours plus longs que ses années, de ses doubles levées et couchers de soleil, de ses rivières de métal en fusion. En comparaison de quoi, la colonisation de la Lune et de Mars n'avait été, pour ainsi dire, que des plaisanteries. Tant que l'homme ne serait pas posé sur Vénus, si jamais il y parvenait, il ne connaîtrait pas d'environnement plus hostile que celui de Mercure. Et voilà que ce monde se trouvait maintenant être, de bien des façons, la clé du système solaire. Rétrospectivement, cela paraissait évident, bien que l'ère spatiale eût déjà un siècle d'âge lorsqu'on en prit conscience. Les Hermiens se faisaient fort de le rappeler. Bien avant que les hommes eussent atteint la planète, l'aberrante densité de Mercure indiquait la présence d'éléments lourds. Malgré cela, grande avait été la surprise devant sa richesse, qui avait fait reculer d'un millénaire toutes les craintes de voir s'épuiser les métaux essentiels à l'espèce humaine. Et ces trésors étaient, on ne peut mieux situer, là où l'énergie du soleil était 10 fois plus grande que sur la froide Terre. Une énergie illimitée et du métal à profusion, c'était Mercure. Ces grands lanceurs magnétiques pouvaient catapulter des objets fabriqués en n'importe quel point du système. Ils pouvaient également exporter de l'énergie, soit sous forme d'isotopes transuraniens synthétiques, soit sous forme de radiation pure. On avait même suggéré que les lasers hermiens pourraient un jour dégeler le gigantesque Jupiter, mais cette idée avait été fraîchement accueillie sur les autres mondes. C'était par trop tenter les démons du chantage interplanétaire que de mettre au point une technique capable de rôtir Jupiter. Faire état de tels soucis en disait long sur l'attitude du plus grand nombre à l'égard des Hermiens. Ils étaient respectés pour leur dureté à la tâche et leur inventivité, admirés pour avoir conquis un monde aussi redoutable, mais ils n'étaient pas aimés. Quant à leur faire totalement confiance... Dans le même temps, il était possible de comprendre leur point de vue. Les Hermiens, répétait-on en manière de plaisanterie, se comportaient parfois comme si le soleil leur appartenait en propre. Ils lui étaient liés par des sentiments ambivalents qu'on retrouvait chez les Vikings pour la mer, les Népalais pour l'Himalaya, les Esquimaux pour la toundra. Assurément, il serait au désespoir que quelque chose vint s'interposer entre eux et... la force naturelle qui dominait et réglait leur vie. Ce fut le président qui, pour finir, brisa le silence. Il se souvenait du soleil de l'Inde et il frissonna en songeant à celui de Mercure. Il fallait prendre les Hermiens très au sérieux, bien qu'ils ne fussent à son avis que des rustres et des barbares techniciens.
« Je pense que votre argument n'est pas sans intérêt. » dit-il lentement. « Que proposez-vous, monsieur l'ambassadeur ?»«
Voici. Avant de savoir quelle action entreprendre, nous devons avoir connaissance des faits. Nous connaissons la géographie de Rama, si toutefois ce terme est approprié. Mais nous n'avons aucune idée de ses possibilités. La clé de tout le problème est ceci. Rama possède-t-il un système de propulsion ? Peut-il changer d'orbite ? Je serais très intéressé de savoir ce qu'en pense le docteur Pereira.
« J'ai beaucoup réfléchi à la question, »
répondit l'exobiologiste.
« Il est clair que l'impulsion initiale a dû être donnée à Rama par un quelconque dispositif de lancement, mais cela pourrait aussi bien être une fusée externe. S'il doit s'avérer qu'il possède un système de propulsion, nous n'en avons pas trouvé trace. Nous avons la certitude que l'enveloppe extérieure ne porte aucune tuyère de fusée ou quoi que ce soit de semblable.
Elle pourrait être dissimulée.
Certes, mais alors, quelle serait leur efficacité? Et où sont les réservoirs de propergol, les sources d'énergie? L'enveloppe principale est pleine. Nous l'avons sondée au séismomètre. Tous les vides de l'hémisphère nord sont le fait des seuls systèmes de SAS. Reste l'extrémité sud de Rama, que le commandant Norton n'a pu atteindre en raison du bras ou plutôt de l'anneau d'eau large de 10 kilomètres. Le pôle sud porte toutes sortes de mécanismes bizarres et de structures, mais vous avez vu les photos. Quant à leur nature, personne ne l'a encore deviné. Ce dont je suis raisonnablement sûr est ceci. Si Rama possède un système de propulsion, il s'agit de quelque chose qui dépasse complètement nos connaissances actuelles. Pratiquement, il faudrait que ce soit le mirifique espace-moteur dont les gens discutent depuis 200 ans.
Vous n'écartez donc pas cette hypothèse?
Absolument pas. Si nous pouvons prouver que Rama fonctionne sur espace-moteur, même si nous n'apprenons rien de son mode de fonctionnement, ce serait en soi une découverte de la plus haute importance. Au moins, nous saurions qu'une telle chose est possible.
En quoi consiste l'espace moteur?
Demanda l'ambassadeur de la Terre d'une voix affligée.
C'est, Sir Robert, n'importe quel système de propulsion qui ne fait pas appel au principe de la fusée. L'antigravité, si elle est possible, ferait joliment l'affaire. Pour l'instant, nous ne savons pas où chercher cette forme motrice. Et la plupart des savants s'interrogent sur son existence.
« Elle n'existe pas !»
intervint le professeur Davidson.
« Newton l'a démontré. Action sans réaction, c'est impossible. Vos espaces moteurs sont des absurdités, vous pouvez me croire. »«
Vous avez peut-être raison, »
répliqua Pereira avec une suavité inaccoutumée.
« Mais si Rama ne fonctionne pas sur espaces moteurs, c'est qu'il n'a pas de moteur du tout. » Simplement parce que la place manque pour un système de propulsion conventionnel qui implique d'énormes réservoirs de carburant.
Il est difficile d'imaginer qu'un monde entier a été lancé à la volée,
dit Dennis Solomon.
Qu'arriverait-il aux éléments qu'il contient? Tout aurait été démantelé par l'accélération. C'est un inconvénient majeur.
Disons que l'accélération a pu être très faible. C'est l'eau de la mer cylindrique qui poserait le plus gros problème. Comment l'empêcher de...
La voix de Pereira s'éteignit soudain, et ses yeux s'exorbitèrent. Il sembla près d'avoir une crise d'épilepsie ou d'angine de poitrine. Ses collègues lui jetèrent des regards alarmés. Puis, aussi soudainement, il reprit son aspect habituel, frappa du poing sur la table et hurla.
« Bien sûr ! Voilà qui explique tout ! La falaise de l'hémisphère sud, je la comprends maintenant !»«
Moi pas !»
grommela l'ambassadeur de la Lune, résumant l'opinion de tous les diplomates présents.
« Regardez cette coupe longitudinale de Rama !»
poursuivit passionnément Pereira en dépliant sa carte.
« Vous en avez tous un exemplaire ? La mer cylindrique est fermée par deux falaises qui encerclent tout l'intérieur de Rama. Celle du nord n'est haute que de 50 mètres. Celle du sud, par contre, est haute de près d'un demi-kilomètre. Pourquoi une telle différence ? Personne n'a été capable de l'expliquer valablement. Mais... supposez que Rama soit capable de se propulser lui-même, accélérant le nord, si je puis dire, en avant. L'eau de la mer tendra à reculer par rapport à ce mouvement. Le niveau au sud s'élèverait, peut-être, de plusieurs centaines de mètres. D'où cette falaise. Voyons.
Pereira se mit à griffonner furieusement. Après un moment invraisemblablement bref, 20 secondes tout au plus, il leva les yeux d'un air de triomphe.
« Connaissant la hauteur de ces falaises, nous pouvons calculer l'accélération maximale que peut se permettre Rama. Si elle excédait 2 centièmes de la gravité terrestre, la mer se déverserait sur tout le continent sud.
Un cinquième de G, ce n'est pas considérable.
Si, pour une masse de 10 millions de mégatonnes. Il n'en faut pas plus pour des manœuvres à l'échelle astronomique.
Soyez vivement remercié, docteur Pereira, dit l'ambassadeur de Mercure. Vous nous avez donné d'abondants sujets de réflexion. Monsieur le Président, pouvons-nous instamment demander au commandant Norton d'examiner la région du pôle sud?
Il fait de son mieux. Bien entendu, il se heurte à l'obstacle de la mer. Il essaie de construire une sorte de radeau pour atteindre au moins New York.
Le pôle sud est peut-être encore plus important. J'ai l'intention, entre-temps, de porter l'affaire à la connaissance de l'Assemblée générale. Ai-je votre accord?
Il n'y eut pas d'objection, pas même du docteur Taylor. Mais au moment précis où les membres de la commission allaient couper la communication, Sir Lewis leva la main. Le vieil historien parlait rarement, et lorsque cela arrivait, tout le monde écoutait.
Supposez que Rama se révèle actif et soit doté de ses possibilités. Selon un vieux dicton du monde militaire, la capacité n'implique pas nécessairement l'intention.
Combien de temps devrons-nous attendre pour être éclairés sur ses intentions?
Demanda l'Hermien.
Lorsque nous le serons, il risque d'être beaucoup trop tard.
Il est déjà trop tard. Nous ne pouvons plus rien tenter pour faire obstacle à Rama. Et je me demande si nous l'avons jamais pu.
Je n'admets pas ce raisonnement, Sir Lewis. Nous pouvons faire bien des choses encore si cela devient nécessaire. Mais il nous reste terriblement peu de temps. Rama est un œuf cosmique que les rayons du soleil commencent à réchauffer. Il peut éclore d'un moment à l'autre.
Le président de la commission regarda l'ambassadeur de Mercure avec un étonnement non simulé. Rarement, il avait été aussi surpris au cours de sa carrière diplomatique. Même dans un moment de délire, il n'aurait jamais cru à un Hermien capable d'une telle flambée d'imagination poétique.